travailler de vos propres mains pour venir en aide aux pauvres. Et souvenez-vous des paroles de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
I'm learning how to cope with heaven calling you home. And we try to be strong with all this going on. We'll just try to keep trying, I suppose. Confused how to deal with this. It's kind of messed if I'm being real with you. And we try to get by, try to get by. But it's hard to disguise how we feel. But you pray to God in the evening. You're grateful that you see another day. And even though your heart is grieving, still you bow your head and say, I don't wanna live life jaded. Don't wanna waste my time feeling victimized. Reminded in my darkest moments to thank God I'm alive. A couple days since you had to leave, and I can't comprehend how I won't see you again in this life, in this reality. I'm not sure how to deal with this. I find it hard trying to find peace with it, and that's run through my head as we lay you to rest. I remember the time when you said to pray to God in the evening. Be grateful that I see another day. Reminded of my darkest moments. To thank God I'm alive. Reminded of my darkest moments. To thank God I'm gonna have a son, and I'll be a good dad. He'll have love like I had, and I promise one day to teach him to never go and live life jaded. Don't waste your precious time feeling victimized. Remember in your darkest moments to thank God we're alive.
Crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
At the birds, how free they fly. Look at the lilies growing so wild. No, they don't wonder if rain's gonna fall down or if the sun will ever come on out. So I won't worry about tomorrow. Tomorrow's gonna worry about itself. I got about a million reasons to praise you. I got about a million stories to tell. To tell about how you always made a way through. I mean, I know where we're going, but I know that it's gonna be good.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
J'aimerais lire avec vous un texte dans le livre de Job, un texte très connu, dans Job au chapitre 1. Nous sommes dans une période de l'histoire qui n'est pas très connue. Ce livre a été rédigé avant qu'on ait été rédigé apparemment le livre du Deutéronome. Et nous sommes antérieurs à la loi. Et nous avons là affaire à un homme qui est intègre. Job, il a 10 enfants. Il est propriétaire terrien, propriétaire de bétail aussi. Il est riche. Et il est intègre, un homme de prière. Il prie régulièrement et quand ses enfants font la fiesta, et ben le lendemain, il s'évertue de demander pardon à Dieu s'il y avait eu des errements ou des égarements de la part des enfants. Donc un homme croyant, un homme profondément croyant et un homme dont même Dieu lui-même dit qu'il était intègre. Il était fidèle. Et on peut s'imaginer qu'un homme fidèle, eh bien, Dieu bénit. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous parle de cela, de la bénédiction qui accompagne la vie de celles et ceux qui marchent droit, qui marchent dans l'intégrité. L'intégrité est un rempart pour le juste, elle est une voie de salut pour celui qui croit en Dieu. Enfin, voilà, vous connaissez ces textes des proverbes, etc., qui parlent de du bénéfice de l'intégrité. Or, voilà qu'il part qu'en l'espace de quelques heures, il apprend une mauvaise nouvelle après l'autre. D'abord, on lui apprend que son bétail a été massacré. Il y a eu une grosse grêle, beaucoup de bétail mort. Et puis il y a eu en plus des bâtiments qui se sont effondrés. Et dans ces bâtiments, ces 10 enfants, en l'espace d'un jour, décèdent. Un peu la loi des séries. Jamais 2 sans 3. Un malheur en entraîne un autre. Alors quand c'est le méchant qui subit des malheurs, on se dit, bien, c'est un peu la récolte de ce qu'il a semé. Mais quand c'est le juste qui récolte de manière aussi terrible, on peut se poser des questions. Tout à coup, notre capacité de compréhension de Dieu devient floue, trouble, confuse. Et ce matin, mon thème est le suivant. Quand Dieu devient incompréhensible. Dans quelques jours, nous allons fêter la Pâque. Et on se réjouit de la Pâque, n'est-ce pas? Mais vu de l'extérieur, à la place des disciples, je me dis, mais malgré les nombreuses fois où Jésus les a informés qu'il allait devoir être crucifié et qu'il ressusciterait 3 jours après, eh bien, ça devait être difficile à comprendre que le Dieu d'amour, en plus manifesté physiquement dans la personne du Christ, va devoir passer par un temps horrible. Gethsémané d'abord, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, et finalement un simulacre de procès, et enfin une exécution absolument horrible, un carnage. Et je pense qu'à un moment donné, pour les disciples, Dieu a dû être incompréhensible. Et je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais cette semaine, nous avons entendu la nouvelle terrible du décès de Madame Karambiri, l'épouse de Mamadou, que nous avons appréciée tellement il y a quelques semaines de cela. Il nous racontait là, sur l'estrade ici, qu'au mois de décembre, sa fille Danielle, ou Daniela, je ne sais plus, qui habite aux États-Unis, avait eu un accouchement difficile, l'enfant était né, mais elle était partie dans une mort cérébrale. Et il a rejoint sa fille, il a prié pour elle. Il a prié et elle est revenue à la vie, alors qu'elle a été déclarée morte cliniquement, que les médecins n'avaient plus aucun espoir. Et voilà qu'en nous racontant cela, on s'est réjoui. Et patatrac, terrible nouvelle. L'épouse de Mamadou disparaît en l'espace de quelques heures. Un ou deux jours, une insuffisance rénale l'a emportée à 59 ans. Et déjà, on entend la voix des cyniques et des moqueurs. Et maintenant, il est où ton Dieu? Et j'entends aussi peut-être la voix de certains chrétiens bien pensants, dont je faisais sûrement partie aussi pendant longtemps, qui se dit, mais peut-être qu'il y a quand même un problème chez lui, quoi. Si Dieu l'affecte tellement en l'espace de si peu de temps, Job, Mamadou et tant d'autres. On est tellement prompt à vouloir fouiller dans la vie de l'autre pour chercher des péchés qui seraient la raison même de son malheur. N'allons pas trop vite en besogne. Des fois, Dieu est incompréhensible. D'ailleurs, le livre de Job est traversé par cette question fondamentale. Mais qui est vraiment Dieu? Se permet-il de jouer avec nos vies? On est l'enjeu d'un pari entre Satan et Dieu, tel que c'est décrit dans Job 1. Et j'entendais même la voix de Job, ou de Mamadou, ou de tant d'autres, moi y compris, lorsque le malheur nous afflige, monte une question au fond de nous. Et elle est très simple, elle est résumée en un seul mot. Pourquoi? Certains diraient, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Maintenant, j'aimerais un instant voir avec vous comment Job a réagi. Et je voudrais qu'on puisse, j'ai parlé de Mamadou Karambiri parce qu'on l'a vu là récemment. Job, ça, c'est tellement loin dans l'histoire. J'ai voulu ramener un Job moderne, quelqu'un en chair et en os, que nous connaissons et que nous apprécions. Peut-être vous partez de ces gens-là qui, ces dernières semaines ou ces derniers jours, avaient vécu un événement difficile après l'autre. Peut-être c'est vous, peut-être que pour vous ce matin, le concept de Dieu devient incompréhensible. Moi je croyais que si on obéissait à Dieu, Dieu nous protégeait, Dieu nous bénissait, Dieu ferait toute chose belle. Oui, on s'entend, il le fait. Et parfois, il y a des étapes intermédiaires. Comment est-ce que Job a réagi? Lisons ensemble le texte. Job 1, versets 20 et 21. Donc, il vient d'avoir une avalanche de mauvaises nouvelles, des versets 13 à 19. Et maintenant, voilà la réaction de Job. Je voudrais qu'en un instant, on se rappelle, c'est un homme comme vous et moi. Je ne sais pas comment je réagirais si on m'apprenait un matin, je ne sais pas moi, à 11h, au bureau, les flics débarquent, veulent voir le pasteur M. Gréder pour lui annoncer que Emma et Zoé sont mortes. Je ne me le souhaite pas. C'est ce qui est arrivé là, c'est ce qui venait d'arriver là. Lisons comment réagit Job. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. » Je répète ce verset avec une nuance qu'apportent d'autres versions, notamment allemandes, anglaises et même roumaines. Il est dit « Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il adora et dit. » La fameuse phrase qui est très connue, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai dans le sein de la terre, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. » Il adora. Étrange ce mot-là. À cet endroit précis, il n'y avait ni chorale, ni musicien, il n'y avait ni une foule d'adorateurs comme ce matin parmi nous, ou sur le net. Il n'y avait qu'une plaie vivante, ambulante. Il n'y avait que des nouvelles brutales et violentes qu'est cet homme-là, de plein fouet. Et pourtant, au moment où il apprend tout cela, il se lève d'abord, il déchire son manteau en signe de son malheur, de la douleur qui accable son cœur, et puis finalement, il se prosterne, il se met par terre, il adore Dieu. Comment peut-on adorer Dieu? Comment peut-on adorer Dieu quand on vit un tel drame? Comment peut-on adorer Dieu quand on a vécu de telles souffrances l'une derrière l'autre? Imaginez qu'on vous dise, madame, monsieur, vous êtes viré. Plus de travail, pas de chômage, pas d'assédic, et vos enfants sont tous morts, ça le même jour, en l'espace d'une heure et demie. Comment peut-on adorer? Comment a fait Job? Était-ce un surhumain, un homme au-dessus du lot, ou un homme comme nous? Et s'il a été comme nous, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui pour nous aider à gérer ces moments de la vie? Et des failles viennent de manière surprenante, sans avertissement, ces moments où Dieu devient incompréhensible. Trois raisons que je vois dans les textes de Job. La première raison, c'est que Job savait lever les yeux. La première des choses qu'il fait, il se lève et il se met sur un plan vertical. D'abord, il regarde vers le haut. Il n'est pas là à ne voir que le côté très horizontal, la souffrance, l'échec, les pertes d'être cher, mais il regarde vers le haut. Il lève les yeux, il se lève et il cherche Dieu dans sa souffrance. Quelque part, dans ces moments difficiles, il s'appuie sur celui qui est invisible. Comme Moïse s'est appuyé sur le Dieu invisible. Hébreux 11, 27 nous dit qu'il marchait, que Moïse marchait comme voyant celui qui est invisible. Dans ces moments, ces luttes les plus terribles, Moïse regardait sur quelqu'un qu'il ne voyait pas. Sur le Dieu qu'il avait appelé à sortir Israël d'Égypte. Dans ses souffrances de Job, eh bien Job comptait sur le Dieu qui avait été fidèle hier et avant-hier. Dans ses douleurs, Joseph, il a continué à croire au rêve, au Dieu du rêve qu'il avait inspiré. Et ce Dieu-là l'avait soutenu dans les moments les plus difficiles. Daniel le prophète, il a continué à croire, à lever les yeux vers le ciel alors qu'on lui préparait la fosse au lion et qu'il allait y descendre. On se réjouit tous, moi y compris, de la délivrance de la fosse. Mais encore faut-il y descendre et des fois nous y descendons. Job savait lever les yeux. Job levait les yeux vers son Dieu. Job était confiant à ce Dieu d'amour malgré des circonstances absolument terribles. Job reconnaissait, et je pense que c'est une caractéristique des adorateurs, Job reconnaissait à Dieu le droit de lui ôter ce qui était cher. Lorsque Abraham a adoré Dieu, il donnait à Dieu le droit de lui reprendre le fils de la promesse. Je pense que l'adoration, c'est un moment où quelque part, eh bien, nous disons à Dieu, Seigneur, même si je ne te comprends pas, je continue de croire en toi. Et même quand tu m'enlèves ce qui est le plus cher, je continuerai en dépit de tout de croire en toi. Parce que tu es Dieu et que tu as tous les droits. J'ai eu le privilège de rencontrer la famille Wurmbrand, Richard et Sabine Wurmbrand, un pasteur roumain d'origine juive qui s'est converti et qui a passé pour sa foi 14 ans en prison, dans les prisons de Ceaușescu, dans les prisons terribles. Pour sa foi, sa femme aussi a passé 7 ans en prison. 7 ans dans les prisons, j'ai pas le temps de parler de détails parce que c'est trop long. Mais en tout cas, 7 ans de souffrance atroce. Et lui, 14 ans. Et j'ai vu cet homme, un homme très grand, très charpenté, une petite femme comme ça, pas très grande. Et j'avais assisté à un congrès à Bâle. Et je me rappelle, un visiteur était là. Et publiquement, il a dit, vous me parlez d'un Dieu d'amour qui vous a laissé pendant 7 ans en prison. Et vous, pendant 14 ans en prison, on vous a battu, roué de coups. Et il y avait des séquelles. On lui avait tapé sur la plante des pieds. Au point que quand il marchait, il n'avait plus d'équilibre. Son fils l'a aidé à marcher. Et je n'oublierai jamais cette femme, ce petit bout de femme. Parce que ce monsieur était très très agressif avec ce couple, publiquement. Et ce petit bout de femme, de prendre la parole et de lui dire publiquement, Dieu fait ce qu'il veut, à lui seul la gloire. Moi, j'étais jeune dans ma foi, hein. J'étais tout petit dans ma foi, mais je me suis dit, mais waouh, Dieu fait ce qu'il veut avec ma vie, à lui seul toute la gloire. Autrement dit, elle adorait Dieu, elle adorait Dieu, elle savait lever les yeux. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est simple, mais je dis que c'est possible. Et je dis que c'est possible de rester fidèle à Dieu, même quand Dieu agit de façon incompréhensible. Même quand les circonstances sont absolument confuses et qu'on se demande où ce qui se passe. Mais Dieu reste Dieu et Dieu est fidèle. Amen. Et l'histoire de Job nous montre que Dieu sera fidèle avec Job et que Dieu va rétribuer son intégrité et que Dieu va lui donner beaucoup plus qu'il n'avait au départ. Et que Dieu l'a consolé de ses pertes et que Dieu lui a donné de même de prier pour ses amis qui étaient eux quelque part dans une logique tout à fait, je dirais, très humaine de Dieu. Deuxièmement, eh bien, il regardait en avant. Dans Job 42, verset 2, nous lisons ensemble, après une longue discussion avec ses amis, et puis une longue discussion où Dieu ne répond pas aux questions de Job. Job pose des questions et on a le sentiment que Dieu répond à côté de la plaque. En fait, Dieu lui dit, mais je poursuis mon but avec toi. Et ce que je fais, c'est juste. Et à un moment donné, Job reconnaît tout cela. Je résume vraiment de longs chapitres. Job reconnaît tout cela et il dit en substance ceci. Je reconnais, verset 2, que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Autrement dit, Dieu ne fait pas d'erreur. Même si, très concrètement, on est comme Job, ou comme la femme de Job. Généralement, on la critique beaucoup, cette pauvre femme, mais moi je la critique plus tellement depuis que j'ai des enfants. Elle aussi a perdu 10 enfants. Quand elle dira à Job, mais t'en as pas marre, non? T'en as pas marre de croire en Dieu. Maudit Dieu et crève. Il y a une maman qui parle là. Un cœur de mère qui souffre. Mais Job, lui, savait regarder en avant. Et quelque part, dans sa souffrance, dans sa douleur, il avait la capacité de dire, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses difficiles. Dans acte 8, on se rend compte qu'il y a une persécution rapide et brutale sur Jérusalem et l'Église. L'Église est malmenée pendant quelque temps. Et ce faisant, elle est dispersée dans toute la région de la Samarie, de la Judée, même plus loin, jusqu'à Antioche, etc., actuelle Turquie. Pourquoi une persécution ? Parce que Dieu poursuivait son but. Et Dieu a poussé les croyants hors de Jérusalem pour qu'ils accomplissent son but, aller par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Dieu poursuit un but. Dieu ne fait pas d'erreur. Job savait regarder en avant parce qu'il avait déjà compris le verset de Romains 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu règne aujourd'hui encore. Les hommes qui ont voulu du mal à Daniel, qui ont voulu sa mort et qui avaient tout rédigé avec détail, avec soin pour la promulgation d'une loi inique qui allait forcément mettre Daniel hors course, qui allait l'éliminer radicalement, et bien Daniel savait que Dieu ferait quelque chose. Daniel savait que Dieu en tirerait gloire. Daniel savait que cela allait servir à la gloire de Dieu. Et lorsque Daniel sort de la fosse, c'est le roi Darius, un incroyant, qui appréciait Daniel pour ses capacités, ses compétences, son esprit supérieur. Darius disait, mais c'est le Dieu de Daniel qui règne. Il règne sur toutes choses et en tout temps. Qu'on lui donne gloire, honneur et respect et crainte. Amen. Mais évidemment, quand on est au fin fond de la bouillabaisse, là, c'est autre chose. Là, on se dit vivement que ça s'arrête. Et vite, et le plus vite sera le mieux. Job savait regarder en avant. Non seulement il levait les yeux, mais il savait regarder en avant au-delà des circonstances. Il apercevait la main de Dieu qui agissait déjà et qui allait amener un bon fruit. Quand nous avons appris que nos enfants allaient naître trop tôt, après avoir passé des mois ou des années à les avoir, c'est arrivé un moment où il a fallu, où j'ai dit au Seigneur, où ma femme a dit, elle dans son coin, moi dans mon coin, moi dans la voiture, elle à l'hôpital, quand on les voyait souffrir les deux, quand les médecins avaient dit une phrase, un euphémisme du type « maintenant il faut qu'elle se batte ». Ça voulait dire, nous on a fait tout ce qu'on a pu, maintenant c'est la vie qui doit faire le reste, il faut qu'elle se batte. Alors on essayait de les aimer, mais à un moment donné on voyait bien que c'était... Que de les garder pour les garder, c'était franchement pas sympa pour les filles. En même temps, on savait aussi que si elles partaient, il n'y aurait pas d'autres. Quand on est monté à Colmar, je me rappelle, je suis monté à Colmar tout seul, à Strasbourg, et je priais tout le long. À Colmar, à un moment donné, je dis maintenant, Seigneur, je pleurais. Je criais, je pleurais, je chantais, je priais. Je disais, Seigneur, si tu veux les reprendre, je te les redonne. On les aura eu 15 jours. Mais je te les rends. Et ma femme, le même jour, quelques heures avant, avait fait la même prière. Il avait dit aux petites, si vous voulez partir, maman vous laisse partir. Si la vie est trop dure, partez. Je ne vois pas aujourd'hui quel aurait été le bien qu'elle parte, mais il n'empêche que. Et c'est là que Dieu a agi. C'est là que Dieu a agi. Et voilà comment il a agi. Les petites se sont rétablies et tranquillement, ils ont remonté la pente. Et je pensais honnêtement qu'on pouvait un jour ou l'autre parler aux médecins, au corps médical, aux gens qui s'occupaient de nos filles. C'est vraiment, franchement, je tire mon chapeau à ces gens-là. Ils font un travail formidable. Et on voulait témoigner. Et je n'ai jamais eu l'occasion de parler à quelqu'un, tellement ça court là-dedans. Quatre mois après qu'elle soit rentrée de l'hôpital, c'était au mois de février suivant, il y avait un frère qui est venu, qui est étudiant en médecine. À l'époque, il faisait justement un stage dans le service néonatal où étaient nos filles. Et il me dit ici, dans la salle, « Dis donc, vous avez laissé un sacré témoignage. » Je dis « Ah bon ?» Je lui dis « Écoute, je n'ai jamais eu l'occasion de dire un seul mot. » Il dit « Ouais, mais vous avez parlé autrement. » Dans tout le service, aujourd'hui encore, on se rappelle de Emma et de Zoé et de ses parents qui avaient une paix incroyable. Et si tous les parents de ces deux nos enfants étaient comme les parents d'Emma et de Zoé, on en saurait beaucoup plus. Et du coup, c'est lui qui a pu dropper le message de l'évangile, de médecin à médecin. Amen. Il y a des fois, des moments donnés, où c'est le entre guillemets, le malheur du croyant qui sert à l'évangélisation du monde. c'est lorsque Lazare est décédé, lorsque Lazare est mort, que finalement, parce qu'il a été ressuscité, que de nombreux juifs ont cru en Jésus. Jean 11, 45. Jésus dira de la mort de Lazare, cette maladie est pour la gloire de Dieu. Comment ça, la gloire de Dieu? La gloire de Dieu en ce qu'il s'est manifesté puissamment au travers de son Fils pour ramener Lazare de la mort à la vie. La gloire de Dieu. Cette maladie, non seulement était pour la gloire de Dieu, mais elle a aussi fortifié la foi des croyants. Les disciples étaient apeurés. Thomas dira, mais ah ouais, tu vas aller mourir. Bon, on va mourir avec toi. On va aller avec toi pour mourir. Mais Jésus dira, c'est afin que votre foi grandisse que cela est arrivé. Bien aimé, des fois, il y a des choses qui nous arrivent et elles sont pour que nous développions notre foi, que notre foi grandisse, que notre foi se développe. Alors, je n'aime pas les problèmes. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Généralement, je les fuis ou je les anticipe et j'essaie de les gérer pour que ce soit moins difficile. Mais des fois, le problème vient. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là que Dieu se manifeste et c'est là que notre foi est importante en Dieu. Amen. Je vais terminer en disant une troisième pensée. Job levait les yeux vers le haut, vers le ciel. Il savait regarder en avant, mais il savait aussi regarder en lui-même. Regardez voir ce qu'il dit dans Job 23, verset 10. Job 23, 10. C'est Job qui parle et qui dit « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Relisons ensemble déjà les versets 8 et 9. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Certaines épreuves dans notre vie sont permises par Dieu parce qu'elles nous purifient, parce qu'elles nous nettoient, parce qu'elles font de nous sortir les scories. Comme on met l'or au feu pour le purifier de ses scories, Dieu des fois nous met dans le creuset afin de nous purifier intérieurement. Dieu veut nous purifier et Dieu veut nous amener plus loin. Et dans ces moments difficiles, non seulement notre vie se purifie, mais en plus de tout cela, notre foi se développe, cette foi qui est si précieuse. Parce que par la foi, nous avons accès aux choses de Dieu. Cette confiance en Dieu se développe dans les moments difficiles, tant que tout est facile. Vous savez, tant qu'on a une sécu derrière nous, une caisse de complémentaire de maladie, tant qu'on a une famille autour de nous, mais quand on va en Afrique, quand on va prier avec des gens qui n'ont ni sécu, peu de famille, etc., tout à coup, cette foi-là, elle est obligée d'aller creuser plus loin. Job savait aussi regarder en lui-même. Et cette épreuve l'a purifié, l'a nettoyé, l'a fait grandir dans sa foi et dans sa compréhension de Dieu. J'aimerais conclure. Si tu passes dans un moment où Dieu devient pour toi incompréhensible, j'aimerais t'inviter à considérer la vie de Job et ses réactions. Comment peut-on dire? Comment peut-on s'exprimer ainsi? Se lever, déchirer son manteau, ça c'est facile encore. Mais après, se prosterner et adorer Dieu et dire « Je suis sorti nu du sein de ma mère, nu je retournerai chez elle, dans le sein de la terre, Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit béni. » Je le crois parce que dans la mesure où Job savait lever les yeux vers le ciel, il savait en qui il avait placé sa confiance. Il savait en qui il pouvait placer sa confiance. Deuxièmement, ce quelqu'un qui était au-dessus de lui, il savait que ce Dieu-là faisait concourir toutes choses à son bien ultime. Et que par sa vie et par ses moments difficiles, Dieu poursuit un but qui dépasse notre vie. Moi, aller témoigner à Strasbourg au corps médical, franchement, je ne sais pas ni comment ni quand je l'aurais fait. Mais là, Dieu nous y a emmenés par un moment extrêmement difficile. Et dans ces moments-là, j'ai appris à lâcher prise et à adorer Dieu en lâchant prise. Mais aussi, ma foi s'est développée. Ma foi s'est développée. Et puis troisièmement, eh bien, ces épreuves ont permis à Job d'être purifié. Et à la fin, il pourra dire « Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais. On a beau me dire, on a beau me critiquer, on a beau se moquer de moi en me disant, mais où est ton Dieu? Moi, je sais que mon Rédempteur vit. Amen. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant au siècle des siècles. Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, mon œil te voit. Maintenant, mes yeux ont compris, ont vu. J'ai saisi, j'ai compris. Et je t'aime au-delà des bienfaits que tu peux me donner. Je t'aime parce que je t'aime. Abraham l'a fait en donnant son fils. Seigneur, je t'aime plus que mon fils. Je t'aime plus que la bénédiction. Je t'aime parce que je t'aime. Des fois, quand on chante « Je suis l'ami de Dieu », parfois je suis gêné. Je vais vous dire pourquoi. L'ami de Dieu dans la Bible, c'est un mot extrêmement précieux. C'est l'aboutissement d'un processus de marche avec Dieu. Abraham était un appelé. Il est sorti et il a marché avec Dieu. Il a eu des hauts et des bas, etc. Mais ce n'est qu'à la fin de ses jours où Dieu l'a appelé l'ami, quand il avait commencé à lâcher prise et à aimer Dieu pour Dieu lui-même. Amen. Je voudrais nous inviter ce matin à avoir ces cœurs d'adorateurs comme Job, comme Abraham. Et à avoir confiance en Dieu en dépit de tout. Je voulais terminer par cette phrase en disant la chose suivante. La confiance en Dieu a mené Job à la délivrance. Il y avait de quoi devenir fou par ce qui lui est arrivé. Je ne sais pas combien de cellules psychologiques auraient dû prendre soin de Madame Job et de Monsieur Job dans les temps modernes. Il n'y avait pas de psychologue, pas de psychiatre, pas de médicaments, pas d'anxiolytiques. Ni d'antidépresseurs, ni rien du tout. Il y avait là des hommes, un homme et une femme qui souffraient. Et comment l'ont-ils surmonté? En faisant confiance, en regardant vers le haut. Et celle-là donne la confiance dans l'avenir. Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Et cette foi-là provoque en nous cette capacité de se développer, de grandir et de laisser Dieu nous purifier. La confiance mène toujours à la délivrance. On peut dire ça ensemble? La confiance mène toujours à la délivrance. Ce qui ne veut pas dire que les enfants de Job sont ressuscités. Ils étaient bien morts. Mais néanmoins, Job s'en est sorti psychiquement, humainement, et même matériellement, et même affectivement. Parce qu'il a gardé sa confiance à Dieu, même quand Dieu était devenu incompréhensible. Amen. Alors, si vous n'avez rien retenu du message, retenez cette dernière phrase. La confiance mène toujours à la délivrance. On se lève ensemble et on répète ça. La confiance mène toujours à la délivrance. Une toute dernière fois. La confiance mène toujours à la délivrance. Puis j'ai invité les musiciens à venir et puis on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu nous aimes et même quand des fois les circonstances sont choquantes, sont brutales, nous rendent confus et confuses, nous voulons te garder notre confiance en dépit de tout. Parce que tu es celui qui nous a appelés au salut. Parce que tu es celui qui nous a pris dans le creux de ta main et nul ne peut nous arracher du creux de ta main. Parce que tu es celui qui nous accorde un amour indéfectible, un amour incommensurable. Nous voulons te garder et te donner notre confiance. Amen.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Well, it seems to play the same old piece to play alone. Cause the audience never listened to her mermaid song. That temptation was a sunny isle where all the lives is dead. Don't use its shadows to make your bed. And behind that painted lady there's a masterpiece. or behind that painted lady. She's a masterpiece. Oh, but she don't care to think so. No, she hasn't got belief. That's what she's wearing over her face. Singing, oh, take me back to me. Oh, descends should be the swan song silhouette, and even down the road should be the last to leave your head, and you'll feel like you're marooned upon that sunny isle instead. Don't choose its shadows to make your bed. Oh, back to you in the original.
Du jour, chaque jour un mot d'encouragement avec Bob et des Bigasses.
Telle voie paraît droite, mais à la fin, c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 12. Demandez son chemin. Bonjour à tous. Je peux être sincère dans mes intentions et pourtant me tromper. La Bible dit que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, verset 45. Le principe de casualité s'applique à tous. Et même les meilleures intentions ne mèneront pas à bon port si on suit le mauvais chemin. Quand j'envisage d'investir, je me renseigne, je m'adresse à des experts, je me lance et tout semble aller pour le mieux. Je m'imagine alors qu'il s'agit d'une bonne décision. Puis, l'inattendu se produit. Une récession arrive et le marché s'effondre. Je n'y suis pour rien. L'intention était bonne. Mais ça ne change pas le résultat final. Je suis tout de même perdant. On ne peut pas se fier à ce qui paraît droit devant un homme. Proverbe 16, verset 25. Il faut poursuivre ce qui est juste aux yeux de Dieu. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Si je n'ai pas donné ma vie au Christ, je suis déjà sur la mauvaise voie. Je dois alors opérer un demi-tour, lui demander pardon pour mes péchés et me laisser me conduire sur le chemin de l'éternité. Un croyant désorienté doit avant tout prier, lire la Bible et écouter ce que Dieu veut lui dire. Les disciples sur la route d'Emmaüs ont dit « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures ?» Luc 24, verset 32. Que Dieu me révèle sa parole, quitte à me donner une indigestion spirituelle, afin d'être réorienté dans la bonne direction. Je peux compter sur lui.
Recevez la brochure Parole du jour chez vous en vous abonnant gratuitement sur paroledujour.com ou sur l'application Parole du jour.
Phare FM, une autre musique.
Playing and the angels crying when the stars Mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Notre thématique du jour, les finances.
Et nous voudrions vous aider avec cela afin que ce ne soit plus quelque chose qui vous stresse, mais dans lequel vous puissiez vraiment vous réjouir et vous épanouir.
Prenez le temps de faire un bilan sur un mois d'où vous en êtes avec votre budget. Donc prenez une boîte à chaussures vide, une boîte à mouchoirs vide, un mouchoir à papier vide, et puis pendant un mois, jouez le jeu. Tous les deux. Inscrivez sur des morceaux de papier, gardez chaque dépense que vous faites.
Chaque facture, mettez-la dans la boîte.
Gardez chaque ticket de caisse, tout doit rentrer dans cette boîte. N'y réfléchissez pas, vivez comme vous faites d'habitude et faites une collection de tout ce que vous avez dépensé dans le mois.
Alors quand arrive le dernier jour du mois ou le premier du mois suivant, vous vous rencontrez et vous allez ouvrir cette boîte, vous demandez l'aide du Seigneur avant de l'ouvrir parce que vous savez que ça peut créer des tensions et demandez-lui sa paix, vous allez voir que ça va bien se passer.
Donc vous commencez par faire le point sur l'argent qui rentre en fait. Quel est l'argent dont vous disposez par mois ? On mélange, vous vous souvenez, ce qui est important, c'est que quelle que soit la source, en fait, tout devient un, le budget commun. Donc Donc vous savez la somme qui rentre et après vous faites le point sur l'argent qui sort par catégorie. Réorganisez vos petites factures par catégorie. Il y a des catégories qui sont incompressibles en fait, hein, bien sûr, logement, véhicule.
Ce sont des dépenses que l'on appelle incompressibles parce qu'elles sont essentielles pour la vie et elles viennent comme une priorité.
En fait, le but c'est de s'assurer qu'on a plus d'argent qui rentre que l'argent qui sort. Pensez à, dans vos catégories, à prévoir pour la retraite, l'assurance maladie, les projets dont vous, les vacances, le fun. Pensez à budgéter tout cela aussi. On veut donner un tout petit mot aussi d'avertissement, d'attention au niveau de se porter caution pour quelqu'un d'autre.
La Bible nous le dit aussi, essayez de ne pas le faire, c'est mieux, parce que vous pouvez vous retrouver dans des dettes alors que ce n'est même pas de votre propre fait. Donc, on vous conseillerait de bien prier, de réfléchir et peut-être même de ne pas vous porter caution.
À moins que Dieu dise autrement, pour un cas très précis, oui. Mais comme règle générale, on ne se porte pas caution. Et les emprunts, parlons des emprunts aussi. On ne veut absolument pas avoir plus de dettes que ce que l'on peut supporter.
Dans certains cas, pour que ce soit pour la maison ou la voiture, l'emprunt se conçoit tout à fait. Par contre, un emprunt de consommation, c'est-à-dire un emprunt que l'on va prendre, de l'argent que l'on prend pour simplement payer les factures de tous les jours, ça c'est un très mauvais signe. C'est quelque chose qui ne devrait pas être.
Donc pour conclure, n'ayez pas peur d'aborder votre domaine financier entre vous deux dans votre couple. Ça fait partie de la vie. Avec Dieu au centre, vous lui demandez de l'aide et soyez de bons gestionnaires de l'argent que Dieu vous confie. Les premiers fruits à lui, plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Soyez responsable vraiment de ce que Dieu vous confie.
C'était Hommes et femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembête. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Si tu voyais comme c'est beau.
Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau.